Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. La Chambre des représentants a demandé au ministère de la Religion d'anticiper les problèmes potentiels au plus fort du Hajj. Israël annonce une pause tactique à Gaza du Sud. Quatre constructeurs chinois de voitures électriques ont fait de l'Indonésie leur base de fabrication. L'ambassade d'Indonésie à Tunis organise la journée culturelle Indonésie-Tunisie. La première gymnastrada indonésienne a été un succès avec plus de 200 participants. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le président de la commission 8 de la DPRRI et membre de l'équipe de surveillance du Hajj de la DPR, Ashabul Kafi, a demandé au ministère de la Religion, qui fait partie des organisateurs du Hajj, d'anticiper les problèmes potentiels au plus fort du pèlerinage du Hajj. Rapporté par Antara à Jakarta dimanche, actuellement en Arabie Saoudite, selon lui, tous les pèlerins du Hajj de diverses régions du monde sont au sommet du Hajj, à savoir le Wukuf à Arafat. Dans la soirée, a-t-il déclaré, la congrégation commencera à se déplacer vers Muzdalifah, puis vers Mina, pour procéder à la procession de lapidation le Jamarat. Selon lui, le gouvernement indonésien doit superviser l'ensemble du processus de pèlerinage du Hajj de la congrégation jusqu'à son retour dans son pays d'origine. Il a souligné que le processus Armuzna ou Arafat, Muzdalifah et Mina est le point culminant du Hajj qui doit être réalisé en collaboration. Il a également conseillé à tous les comités organisateurs du Hajj d'exercer leurs fonctions en toute responsabilité en supervisant chaque mouvement des pèlerins d'un endroit à un autre. Il a également rappelé que le mouvement des pèlerins de Muzdalifah à Mina nécessite également une attention particulière. Il a également rappelé que le mouvement des pèlerins de Muzdalifah à Mina nécessite également une attention particulière. Selon lui, une surveillance stricte de l'itinéraire allant de la tente Mina à Jamarat est très importante pour éviter que les pèlerins ne se perdent ou ne prennent le mauvais itinéraire. L'armée israélienne a annoncé dimanche qu'elle mettrait en œuvre une pause tactique de l'activité militaire quotidienne dans la partie de la bande de Gaza du Sud. Une pause tactique serait mise en place pendant la journée pour faciliter l'acheminement de l'aide. Rapporté par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que la cessation tactique locale de l'activité militaire était à des fins humanitaires. La pause tactique sera en place tous les jours de 8h à 19h heure locale jusqu'à nouvel ordre. Une pause tactique sera mise en place le long de la route menant du passage de Kerem Shalom à la rue Salah al-Din, puis au nord. Le gouvernement indonésien encourage quatre constructeurs chinois de voitures électriques qui possèdent déjà des usines en Indonésie, à savoir Wuling, Chery, Neta et Sokonindo, à stimuler leurs exportations, notamment dans le domaine des voitures électriques à conduite à droite. Comme l'a rapporté Antara dimanche à Jakarta, lors d'une réunion avec le ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie, les quatre entreprises ont salué les espoirs du gouvernement indonésien d'augmenter les exportations en augmentant le volume ou bien le nombre de pays de destination des exportations des usines en Indonésie. Selon le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang, l'entreprise a accepté de faire de l'Indonésie une base de production de véhicules électriques à conduite à droite destinée à l'exportation vers 54 pays utilisant des voitures à conduite à droite. Le gouvernement indonésien espère que Wuling pourra augmenter le nombre de pays auxquels il exporte et aider l'Indonésie à devenir un centre de fabrication de véhicules électriques dans la région. En dehors de cela, Sokonindo et Chery possèdent également des usines en Indonésie. Selon les données du ministère indonésien de l'Industrie, Sokonindo a actuellement une capacité de production de 50 000 unités, Wuling de 120 000 unités et Chery est capable de produire jusqu'à 8 000 unités, tandis que Neta a un plan de production de 9 300 unités. Outre ces quatre marques, le nouveau venu, BYD, construira également une usine sur 108 hectares de terrain à Subang, à la province de Jaffa de l'Ouest. L'ambassade de la République d'Indonésie en Tunisie a organisé samedi, heure locale, une journée culturelle Indonésie-Tunisie en collaboration avec l'organisation culturelle locale, l'association de Phoenix, à l'ambassade d'Indonésie à Tunis. L'ambassadeur de la République d'Indonésie en Tunisie, Zuhairi Misrawi, a déclaré que l'événement était une forme de diplomatie culturelle qui constituait la principale stratégie de l'Indonésie pour introduire la culture nationale et renforcer la coopération culturelle au niveau mondial. Cité par Antara, Zuhairi a déclaré que l'ambassade d'Indonésie à Tunis avait pour priorité de faire de la culture un pont pour la coopération bilatérale avec la Tunisie. En dehors de cela, son parti a affirmé faire de l'ambassade d'Indonésie à Tunis une maison de la culture, afin qu'elle ait pour fonction de présenter la culture indonésienne. L'ambassadeur a déclaré que la culture est une base importante pour la construction de la civilisation nationale et le renforcement de la diplomatie entre les pays. Selon lui, la culture doit être célébrée et ravivée de manière continue afin de soutenir le progrès économique et la souveraineté politique. La première édition de l'Indonésie, Gymnastrada, ou première Gymnastrada indonésienne, s'est déroulée avec succès avec plus de 200 participants de ses équipes au Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta, samedi. Ce festival, organisé par l'Association indonésienne de gymnastique ou Gymnastique Indonesia, a été organisé comme une étape visant à promouvoir la gymnastique pour tous ou GFA ou la gymnastique pour tous les groupes. Tel que rapporté par Antara, le président général de Gymnastique Indonesia, Ita Yuliati, a déclaré que l'Indonésie Gymnastrada était la première à être mise en œuvre en Indonésie et même en Asie du Sud-Est. Selon lui, le GFA est l'une des disciplines de gymnastique conformes au DBON, ou Grand Dessin Sportif National, à savoir cultiver la société et rendre le sport populaire. Le GFA est une discipline relevant de la Fédération Internationale de Gymnastique, ou FIG. La FIG organise également la Gymnastrada mondiale depuis 1953, qui a lieu régulièrement tous les 4 ans. Gymnastrada, qui signifie gymnastique, Estrada, est un festival non compétitif qui combine des éléments de danse et de culture qui présentent des mouvements de gymnastique régénérant. L'Indonésie Gymnastrada 2024 s'est déroulée en présence du président de l'Union asiatique de gymnastique GFA, le professeur Tatsuo Araki, et a été ouverte directement par le ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Indonésie, Dito Aryo Tejo. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « La commission 1 de DPR approuve les subventions pour l'équipement militaire de l'étranger ». La commission 1 de DPR-RI a approuvé la réception des subventions d'équipement de défense et de sécurité de la Corée du Sud sous la forme du navire Bucheon 773 Petrol Combat Corvette, ou abrégé en PCC, pour la marine indonésienne. Cet accord était l'un des points convenus lors de la réunion de travail de la Commission 1 des DPR-RI avec le commandement du TNI, le ministère de la Défense et le ministère des Finances au complexe du Parlement Senayan, Jakarta, jeudi. Le vice-ministre indonésien de la Défense, Muhammad Herindra, a déclaré que le navire construit en 1988 était toujours à quai en réparation en Corée du Sud. Le navire sera envoyé en Indonésie après avoir d'abord réparé la structure et les moteurs du navire afin que le navire soit prêt à naviguer. Herindra a expliqué que le budget de réparation d'un navire était d'environ 35 millions de dollars américains, soit environ 569,97 milliards de roupias. Il a ajouté que les sources de financement de réparation seront budgétisées dans le plan stratégique du ministère de la Défense pour 2025 à 2029. Herindra a expliqué que le navire Bucheon 773 PCC mesurait 88,3 mètres de long et avait une distance de 7400 km. Le navire a également une vitesse de 32 nœuds et est armé d'un canon d'artillerie de 20 à 40 mm. En dehors de cela, la commission 1 de DPR a également approuvé l'obtention d'une subvention du Brunei Darussalam sous la forme de 2618 cartouches de munitions Naval Ganoto Malara de 76 mm pour la marine indonésienne. Outre l'octroi des subventions, la commission 1 de DPR a également approuvé l'octroi d'armes et de munitions sous la forme de 150 armes SS-2-V5, 20 pistolets d'élite G2, 500 000 cartouches de calibre 5,56 mm et 500 000 cartouches de calibre 9 mm du ministère indonésien de la Défense aux troupes de force spéciale de l'armée royale cambodgienne au commandement des forces spéciales de l'armée royale cambodgienne. Selon Herindra, les nouvelles armes et munitions ont été produites par PT Pindad par des achats du ministère de la Défense pour l'exercice 2021 avec une valeur de subvention de 8 milliards roupias. C'est tout la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 16 juin. On commence par le 16 juin 1908, la guerre Belasting de Sumatra de l'Ouest. La guerre de Belasting était une guerre qui a eu lieu en raison de la mise en œuvre d'un impôt sur la terre ou d'un impôt foncier par le gouvernement néerlandais des Indes orientales sur la population de Minang, Sumatra de l'Ouest. En réponse aux réglementations fiscales, les habitants de Sumatra de l'Ouest ont tenu une réunion secrète pour planifier la résistance. Le 15 et 16 juin 1908, les habitants de la région de Kamang, Sumatra de l'Ouest, ont riposté. Citant Kemdikbud.go.id, la résistance a également été menée par les habitants de Nagari Mangopo. Une femme nommée Siti Mangopo a conduit 16 de ses amis au combat et a tué 53 des 55 soldats néerlandais. Ils ont utilisé des tactiques de guérilla et des tactiques de leurre pour riposter. Au lendemain de la guerre, la région de Mangopo est devenue une zone isolée car toutes les routes menant à Nagari Mangopo étaient fermées. Le 16 juin 1963, Valentina Tereshkova est devenue la première femme astronaute de l'Union soviétique. Valentina Vladimirovna Tereshkova, née à Bolshoye Meslenikovo, à la région de Yaroslavl, en Russie, le 6 mars 1937, est une cosmonaute de l'Union soviétique. Valentina Vladimirovna a été la première femme au monde à voler dans l'espace. Elle a volé à bord de la navette spatiale Vostok 6 en 1963. Valentina Tereshkova a été dans l'espace pendant 70 heures et 50 minutes et a fait 48 fois le tour de la Terre. La suite, le 16 juin 2010, le Bhoutan est devenu le premier pays à mettre en œuvre une interdiction totale du tabac. La loi bhoutanaise sur la lutte anti-tabac a été adoptée par le Parlement le 16 juin 2010. Cette loi interdit la culture, la récolte, la production et la vente de tabac et de produits de tabac au Bhoutan. La loi exige également que le gouvernement bhoutanais fournisse des conseils et des traitements pour faciliter l'abandon du tabac. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita, manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna. Tuhan ini cinta tahu
Voice of Indonesia.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « La semaine nationale paralympique 2024 aura lieu à Surakarta ». Le gouvernement a décidé que la 17e semaine nationale paralympique, ou en indonésien « Pekan Paralympique National » abrégé en « Peparnas 2024 », se tiendrait du 6 au 13 octobre 2024 à Surakarta, Java Chandra. C'est ce qu'a déclaré jeudi le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, après avoir assisté à une réunion limitée sur la préparation à la tenue du 21e PON et du 17e Peparnas en 2024, présidé par le président Joko Widodo au palais présidentiel de Jakarta. Auparavant, le 17e Peparnas 2024 aurait lieu à Sumatra du Nord, après la 21e Semaine nationale du sport. Selon le ministre Aryo Tejo, le transfert de la ville haute a été conforme au résultat d'une réunion conjointe limitée avec le président de la République. Le ministre Dito a souligné que le déménagement vers le lieu de l'événement a eu lieu après avoir reçu la contribution du Comité national paralympique indonésien ou National Paralympic Committee Indonesia, ou abrégé en NPCI, concernant Peparnas. Auparavant, le NPCI avait organisé une réunion de travail national et l'une de ses décisions était de demander que Peparnas soit mis en œuvre à Java Central, en particulier à Surakarta. Basé sur les résultats de la réunion de travail national du NPCI, Surakarta a été proposé pour accueillir Peparnas, car auparavant, la ville avait également organisé avec succès le Paragames de l'ASEAN 2022. Le ministre Dito a également déclaré que la sélection de Surakarta fait référence à presque tous les sites et équipements liés au sport pour personnes handicapées ou aux Jeux paralympiques disponibles à Surakarta, y compris d'autres hébergements tels que des hôtels. Basé sur la contribution du NPCI, finalement, lors d'une réunion limitée avec le président Joko Widodo, le gouvernement a décidé et approuvé la mise en œuvre de Peparnas 2024 qui se tiendra à Surakarta. En dehors de cela, les préparatifs de Peparnas 2024 peuvent être effectués immédiatement sans créer de lieux spéciaux ou nouveaux car tout est déjà disponible. Actuellement, ce que fera le comité, c'est vérifier tous les lieux pour effectuer des recherches et vérifier que s'il y a des réparations ou des rénovations, elles ne sont pas trop nombreuses et ne prennent pas beaucoup de temps. C'est tout mon Indonésie.
Cinta yang sesaat, oh, 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 oh. La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Les auditeurs de Voice of Indonesia, la plage de Karanggantungan se trouve à la rue Suradi, ujung genteng, village de Pasiripis, district de Suradi, région de Sukabumi, province de Java de l'Ouest, est un paradis caché à Sukabumi. La plage de Karanggantungan est souvent appelée Tanah Lot de Sukabumi, Java de l'Ouest, parce qu'il existe un corail qui ressemble à une petite île au milieu de la mer. La vue n'est pas moins belle que celle de Tanah Lot. Avec sa belle étendue de sable blanc et ses roches coralliennes disposées de manière unique et attrayante, cette plage promet une expérience de vacances mémorable à ses visiteurs. La plage de Karanggantungan se trouve à 107 km du centre-ville de Sukabumi. Chers auditeurs, l'attrait de cette plage réside dans son paysage naturel enchanteur. Les visiteurs qui viennent peuvent voir la belle combinaison de la vaste étendue de sable blanc et des rochers coralliens autour de la plage. Les visiteurs peuvent également voir d'imposantes falaises de corail sur les côtés droit et gauche de cette plage. Les falaises de corail sont couvertes de végétation verte, ajoutant à la beauté de cette plage. Une autre caractéristique unique sont les étonnantes formations coralliennes qui semblent suspendues, comme par magie, au-dessus de la surface de l'eau, donnant à cette plage un nom qui décrit parfaitement sa beauté. Du haut du rocher corallien, les visiteurs peuvent admirer la beauté de cette plage. Falaise avec des rochers exotiques qui s'avancent légèrement dans la mer, la forme de la roche corallienne au milieu de la mer a une forme pyramide, c'est ce qui ajoute à sa propre belle impression. Le bruit des vagues s'écrasant contre ces falaises crée une mélodie naturelle apaisante, offrant une atmosphère paisible que l'on retrouve rarement ailleurs. Chers auditeurs, l'une des choses à ne pas manquer lors de la visite de cette plage est de prendre des photos. Vous pourrez prendre des photos avec une belle plage de corail en toile de fond. Jouer dans l'eau est aussi quelque chose qui peut se faire ensemble. Vous pouvez voir la diversité de la vie marine, faire du snorkeling et de la plongée. L'après-midi, vous pourrez profiter de la brise et admirer le magnifique coucher de soleil. Si vous souhaitez profiter de la beauté du coucher de soleil, vous devez venir à 16 heures. À part cela, il est préférable de venir pendant la saison sèche, car lorsqu'il pleut, l'accès à cette plage est très glissant et dangereux.
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, mau menjaga hatiku. Daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah. Bunda gulana hatiku telah tersirat.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Les auditeurs de Voice of Indonesia, l'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est 30 marques de mode modeste, prête à apparaître la Fashion Week musulmane de Jakarta 2025. Au total, 30 marques indonésiennes de produits de mode modeste sont prêtes à participer à l'événement phare de la Jakarta Muslim Fashion Week, ou abrégé en JMFW 2025, qui se tiendra du 9 au 12 octobre 2024 à Indonesia Convention Exhibition ou AICE BSD Tangerang Banten. Ces 30 marques sont les résultats de la participation à un séminaire et d'une curation intitulée Road to JMFW 2025 qui a été réalisée dans 4 villes par le ministère du Commerce en synergie avec le ministère du Tourisme et de l'Économie Créative. Lors de l'événement phare du JMFW en octobre prochain, les acteurs économiques rencontreront des acheteurs nationaux et étrangers invités. Mary Mariati, directrice du développement des exportations, des services et des produits créatifs au ministère du Commerce, a déclaré que le thème du JMFW de cette année est « L'Indonésie en tant que champion de la mode modeste mondiale ». Ce thème est conforme à l'objectif de l'Indonésie de se déclarer cette année le champion de la mode modeste mondiale. Le directeur des affaires et de l'entrepreneuriat de la charia du Comité national pour l'économie et les finances de la charia, Yuke, a souligné que la collaboration entre le ministère du Commerce et le ministère du Tourisme et de l'économie créative réalisera le rêve de l'Indonésie de devenir le modeste centre mondial de la mode. Cela a également le potentiel d'ouvrir des opportunités d'emploi. Le développement de la mode modeste indonésienne est l'un des programmes prioritaires du gouvernement pour accélérer l'exportation de produits halal. D'après les données du rapport sur l'état de l'économie islamique mondiale, la mode modeste indonésienne continue de croître. En 2017, l'Indonésie ne figurait pas dans le top 10. Cependant, le classement de l'Indonésie continue de progresser jusqu'à atteindre la 3e place en 2023. Cette augmentation du classement ne peut être séparée du rôle de JMFW dans la promotion du potentiel de la mode modeste indonésienne au monde. Cet événement vise à promouvoir les produits de mode modeste et d'autres industries annexes telles que le textile, les cosmétiques, les bijoux, les accessoires et les produits lifestyle. Auparavant, l'événement principal du JMFW 2024 avait réuni plus de 214 créateurs présentant plus de 1000 collections. L'événement s'est clôturé par l'enregistrement de transactions d'un montant de 20,1 millions de dollars, soit l'équivalent de 330 milliards roupias. Voilà l'Indonésie en couleur.
Terus bertahan terus bertahan. Sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu, memaksamu mencintaiku sepenuh hati.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je parle d'une chanson de 10 to 5. 10 to 5, un groupe pop actif dans l'industrie musicale indonésienne depuis 2004. Actuellement, ses membres sont Imel, Arif, Ardi et Thomas. Le 14 juin 2024, ils sortent leur nouveau single intitulé You, popularisé par le groupe de musique T5 en 2001. Cette chanson fait partie du projet 10 to 5 et T5 où ils échangent des hits. En mai 2024, T5 a également sorti la chanson You, qui a été popularisée par 10 to 5. Avec une touche de musique emblématique de 10 to 5, la chanson You est présentée avec une nouvelle sensation, mais porte toujours la nostalgie de la chanson originale. Cette chanson créée par Yeri et Rizal T5 décrit les différents sentiments qui surviennent dans une relation amoureuse. 10to5 espère que le single You pourra être un hommage à T5 et faire partie de l'existence de 10to5 travaillant dans l'industrie musicale indonésienne. En dehors de cela, cette chanson sera également un pont pour les mélomanes de toutes les générations afin qu'ils puissent continuer à profiter des chansons légendaires avec une nouvelle touche à l'époque actuelle. Bon, chers auditeurs, voici la version 10to5 de la chanson You. Bonne écoute!
Hatiku
Voice of Indonesia.
You know all the things I've said, you know all the things that we have done, and things I gave to you. If there's a chance for me to say how precious you are in my life, and you know that it's true, to be with you is all that I need, 'cause with you my life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.